Se trouve dans l'évangile de Luc, la fin du chapitre 18 et le chapitre 19. C'est un passage que vous connaissez bien, ce sont des passages que vous connaissez bien, et c'est très réjouissant de pouvoir parler de l'évangile, de pouvoir revenir à Jésus. Comme j'ai dit parfois, quand j'étais jeune chrétien, j'aimais beaucoup l'Ancien Testament. Mais j'ai découvert l'évangile, la passion de l'évangile bien plus tard, parce que j'ai trouvé que, avant, j'ai trouvé que c'était trop simple. Et maintenant, je trouve que c'est tellement merveilleux, cette simplicité que Dieu donne. Merci beaucoup. Et le Seigneur parle à travers l'évangile de toujours aujourd'hui, et c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Alors, le titre de mon message, c'est « Recouvre la vue ». Voilà, quelque chose qui vous fait penser certainement, surtout que je l'ai situé à Luc 18-19, à ce passage avec Bartimée, l'aveugle, qui était à l'entrée de Jéricho. Et j'aimerais juste dire qu'il y a trois organes qui peuvent être atteints dans la cécité. Il y a multiples forme de cécité, mais il y a trois organes particulièrement qui peuvent être en cause dans la cécité. Premièrement, c'est l'œil, la rétine de l'œil. Ensuite, c'est le nerf optique, c'est-à-dire ce qui conduit le message reçu par la rétine jusqu'au cerveau, derrière l'air visuel, donc là-bas. Et la troisième raison, c'est le troisième domaine, le troisième organe, si je puis dire, c'est le cerveau à l'arrière, c'est-à-dire que si vous tombez sur la tête à l'arrière, vous allez voir du noir. Mais ce n'est pas parce que vos yeux sont défaillants, ce n'est pas parce que votre nerf optique est défaillant, c'est parce qu'il y a eu un petit choc là, à l'arrière, et ça donc affecte la perception visuelle. Et donc j'aimerais juste prendre une illustration de cela en rapport avec Jéricho, en rapport avec la ville de Jéricho. Parce que si l'œil se trouve à la périphérie et que c'est le nerf optique qui fait le lien entre la périphérie et le système nerveux central, eh bien ici on a aussi quelque chose qui nous parle au niveau de la ville de Jéricho, puisqu'il est question de la périphérie de Jéricho, il est question de ce qui permet de rentrer en Jéricho, de passer de la périphérie à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire la muraille et la porte de Jéricho. Et ensuite, il est question de l'intérieur de Jéricho, la ville de Jéricho, à l'intérieur, donc en dedans des murailles. Et j'aimerais donc utiliser cette image, cette métaphore, pour nous parler de trois aspects de la vie chrétienne, trois aspects de l'avancée avec le Seigneur et de la rencontre avec Jésus. Et je pense que dans certains cas, on va trouver qu'on a connu un aspect et pas l'autre. Ou on a connu un aspect mais pas les deux autres. Ou on a connu deux aspects mais pas le dernier. Et on a besoin de progresser. On a besoin de quelque chose de complet, une œuvre complète de Dieu dans nos vies. La première œuvre de Jésus, je la trouve donc à la périphérie. À la périphérie, c'est... Là, ici, vous avez Jésus à la fin du chapitre 18 qui approche de Jéricho, il approche de la ville, et puis voilà qu'il y a un aveugle qui crie « Fils de David, aie pitié de nous ». Ils étaient vraisemblablement deux, puisque Matthieu nous dit qu'ils étaient deux. En tout cas, ce qui semble, c'est que l'un d'entre eux était bien connu, probablement l'autre n'était pas connu. Donc on a ici Luc qui nous raconte le récit de Bartimée ou de l'aveugle au singulier, parce que c'était le plus célèbre. Et effectivement, il était probablement bien connu aussi parce qu'il avait peur de rien. Il a commencé à crier « Seigneur, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Voilà quelque chose de remarquable. Il l'a fait devant tout le monde. Et vous savez, au plus qu'on est misérable, au plus qu'on a le sentiment de culpabilité du péché, au plus qu'on est tombé bas, comme disait Kevin tout à l'heure, au plus qu'on est tombé bas, au moins on a de gêne pour dire « Seigneur, aie pitié de moi ». Parce qu'il y a une pression, n'est-ce pas, qui s'exerce en nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus supporter cet état et on crie vers Dieu et on ne se préoccupe pas de ce que va penser le voisin, de ce que vont penser les gens. Et vous aviez les gens qui disaient, mais tais-toi, écoute. C'est vrai, c'est du désordre public, ça met le désordre, n'est-ce pas? Ça perturbe l'ordre public. On ne doit pas avoir des gens qui crient comme ça dans la rue. Et quelquefois, vous avez dans une église des gens qui crient sous la conviction du péché. Il y en a qui font ça pour faire du théâtre. Mais il y en a qui crient vraiment sous la conviction du péché. Et les chrétiens sont là, très embarrassés, parce que ça dérange la tranquillité. Mais si quelqu'un est sous la conviction du péché, si quelqu'un est sous la conviction qu'il a besoin de crier à Dieu, il faut le laisser crier et il faut l'amener à Jésus. C'était le rôle des disciples de l'amener vers Jésus. Mais ce qui me préoccupe d'une certaine façon, c'est que dans les églises, on n'a pas ça maintenant qui se produit, ou rarement. Des gens qui sont sous la conviction du péché, des gens qui sont touchés par l'Esprit de Dieu avec une telle puissance qu'ils ne peuvent que crier « Seigneur, aie pitié de moi ». Si vous n'avez jamais crié à Dieu comme ça, « Aie pitié de moi », si vous n'avez jamais pris conscience du fait que vous êtes profondément misérable, aussi juste que vous ayez pu être dans le passé, aussi bien pensant, aussi correct que vous ayez été par vos comportements, eh bien vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes pécheur et que vous êtes misérable, que vous êtes aveugle, misérable, aveugle et nu. Et qu'il n'y a que le Fils de David, le Fils de Dieu, qui peut intervenir. Mais maintenant, comme je dis souvent, on a beaucoup de conversions qui sont des conversions en toute discrétion, qui sont des conversions pour lesquels il n'y a eu aucun cri à Dieu, il n'y a eu aucune repentance, il n'y a eu aucune reconnaissance de l'état de misère. Et on se convertit par adhésion, par accord en disant « je crois que c'est juste, je crois que c'est l'enseignement le moins mauvais qu'il puisse y avoir, et donc je vais adhérer à cela et je vais suivre Jésus ». On a besoin d'être passé par là, n'est-ce pas? On a besoin de crier à Dieu, de dire « Seigneur, je suis aveugle, je ne reçois pas ton esprit, je ne reçois pas ta lumière, je ne reçois pas l'amour que tu veux communiquer, je ne reçois pas les choses ». Oui, c'est ce que Bartimée vivait. Il était autour de lui, il savait qu'il y avait du mouvement, il savait qu'il y avait beaucoup de choses, mais son problème, c'est qu'il ne pouvait pas recevoir, il ne pouvait pas voir tout cela. Est-ce qu'on a crié à Dieu? Est-ce qu'on a crié à Jésus? Si je me rappelle bien, dans le témoignage de Kevin, ça s'est passé dans sa voiture, c'est ça? Voilà, quand il conduisait la voiture, il a dû arrêter sa voiture, sinon il avait un accident. Vous savez, Dieu est dangereux parfois, hein? Il a eu la révélation de l'amour de Dieu subitement en conduisant la voiture. Ce n'est pas dans une église. Tu n'es jamais allé dans une église évangélique. Ce n'est pas des gens qui lui ont dit « il faut te convertir ». C'est l'Esprit de Dieu qui a montré clairement qu'il avait besoin de Dieu. Et il a montré son amour pour lui. Est-ce qu'on a crié? Est-ce qu'on a crié quand on a su que Jésus passait tout près? Est-ce qu'on a dit « Seigneur, moi je vois rien, moi j'arrive pas à te voir. Les autres peuvent te voir, mais moi je ne peux pas. Aie pitié de moi, je veux voir ta lumière, je veux être guéri, je veux recouvrer la vue. » Le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a répondu, que je recouvre la vue. Et le Seigneur lui a repris ses paroles, recouvre la vue, immédiatement, recouvre la vue. Une personne qui crie à Dieu du fond de son cœur, qui est sous la conviction du péché, qui demande à Dieu d'avoir pitié de lui, qui crie vraiment auprès du Seigneur en disant, Seigneur, sauve-moi. Cette personne est sauvée sur le champ. Cette personne, et Jésus intervient immédiatement en disant, je te sauve, je te libère. Et le problème des chaînes qui durent des années parfois chez certains, c'est parce qu'il n'y a jamais eu ce cri, parce qu'il n'y a jamais eu cette prise de conscience du besoin de Jésus. On a besoin de connaître Jésus. Et ça, c'est l'œuvre première. C'est le fait qui nous ouvre les yeux. Le monde est aveugle. Le monde ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas les saisir. Il ne peut pas les comprendre du tout. Il peut proclamer que Dieu n'existe pas, mais il peut proclamer dans la même phrase que l'univers est arrivé par hasard, ou même, comme j'ai entendu que les extraterrestres ont conçu le design de l'univers. Et on commence à avoir des étudiants qui acceptent cela, n'est-ce pas, qui acceptent qu'il puisse y avoir des entités extraterrestres qui ont conçu le design de l'univers, mais Dieu, non. Et il y a un moment donné où Dieu se révèle et il vous dit, et d'un seul coup, ça devient une évidence que Dieu est le Créateur. D'un seul coup, vous pouvez voir comme ce qui était impossible avant pour vous de comprendre. Vous pouvez voir qu'il y a l'ordre de Dieu dans tout ce qui vous entoure dans la nature. Dans cette diversité extraordinaire que Dieu a créée, cette biodiversité. Et demandez à Dominique un peu pour qu'il vous raconte comment l'homme travaille quotidiennement pour que la biodiversité diminue de jour en jour avec la pollution, avec les dégâts que l'homme peut faire. Mais Dieu avait prévu une biodiversité dans l'Église, c'est la même chose. Une biodiversité dans l'Église. Diversité de vie, diversité d'expériences, de personnes, de qualités. Et nous sommes extrêmement privilégiés en tant qu'anciens. Parce que c'est la responsabilité des anciens de faire le ménage. C'est la responsabilité des anciens de faire le désherbage, de faire le couper les haies. Mais le Seigneur pourvoit sans qu'on demande. Et c'est une grâce de Dieu. Et quand ce ne sera plus le cas, c'est là où il y aura quelque chose qui dysfonctionne dans l'harmonie. Mais c'est merveilleux combien Dieu est tout-puissant. Et il nous ouvre les yeux. C'est la première expérience avec Dieu. Seigneur, je crois que beaucoup de gens peuvent dire, Seigneur, un jour tu m'as ouvert les yeux. J'ai crié vers toi et Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. J'ai commencé à voir Jésus. J'ai commencé à me rendre compte de choses spirituelles. J'ai commencé à comprendre la vie spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui sont totalement hermétiques aux choses spirituelles. Ils ne peuvent pas du tout comprendre des choses spirituelles. On leur dit, voilà, il faut croire au Seigneur, il faut que tu pries pour cette situation. Et ils regardent comme si c'était la chose la plus étrange au monde qu'on puisse leur dire. Mais un jour vient où le Seigneur touche les yeux de ceux qui crient à lui et commence à voir, il commence à percevoir les choses spirituelles, commence à comprendre qu'il y a effectivement une dimension spirituelle qui s'exerce sur nous. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas là que s'arrête l'œuvre du Seigneur. Il n'ouvre pas les yeux des aveugles seulement. Il fait une œuvre tellement plus profonde et c'est surtout sur ça que je voudrais insister. Donc, si la rétine peut être en cause, si l'œil peut être en cause dans l'aveuglement, il y a aussi le nerf optique qui a besoin. Et le nerf optique, c'est ce qui conduit de l'extérieur à l'intérieur. Et qu'est-ce qui conduit de l'extérieur de Jéricho à l'intérieur de Jéricho? C'est la porte de Jéricho et c'est la muraille de Jéricho. Et c'est là qu'on va trouver une œuvre plus profonde qui va se faire de la part de Jésus. Et j'aimerais simplement vous rappeler, mais vous connaissez bien le récit de la muraille de Jéricho, n'est-ce pas, qui est tombée lorsque les enfants d'Israël sont passés dans la terre promise. Et le Seigneur leur a dit de ne pas attaquer. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment un chef militaire, vous lui dites, voilà, ne n'attaque pas. Tu vas gagner la guerre, mais tu ne fais aucun combat, aucune initiative. Tu n'auras pas besoin de te défendre. C'est merveilleux. Mais aucun chef militaire va dire, non, mes galons, si je n'attaque pas, si ce n'est pas moi qui fais le plan, si ce n'est pas moi qui interviens, je n'aurai pas ma médaille. Et c'est la médaille qui compte. Ici, le Seigneur leur dit, vous marcherez autour de Jéricho pendant 6 jours, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Vous voyez, le Seigneur est pour la marche. Il aime bien faire marcher son peuple. Et il n'y avait rien à faire, sauf à obéir la voix de Dieu. Et là, on trouve que les gens qui ont retrouvé la vue, n'est-ce pas, avec le Seigneur, ça leur pose un problème. Non, il va falloir que je lutte. Il va falloir que je fasse quelque chose pour combattre. Il va falloir que je fasse quelque chose pour gagner la victoire. Mais la victoire ne se gagne pas par la lutte que vous pouvez avoir. Si vous luttez contre un problème dans votre vie spirituelle, eh bien, c'est que il y a quelque chose qui doit s'opérer de la part de Jésus pour que vous soyez libérés de cette lutte. Parce que si vous essayez d'établir du conditionnement, il existe des appareils, si vous voulez continuer comme ça, il existe des appareils que vous mettez sur la tête et qui vous donnent un choc électrique lorsque vous avez tel type de pensée. Ça commence à se développer, ce genre de choses. C'est pour éviter les problèmes de pensée, n'est-ce pas, ou les mauvaises habitudes. Vous avez envie de fumer, le cerveau présente certaines caractéristiques physiologiques, chimiques, lorsque vous avez envie de fumer, et c'est capté par ces capteurs, et ça envoie un petit choc électrique, de sorte à ce que l'envie de fumer soit associée maintenant à un choc électrique, de sorte à ce que quand vous avez envie de fumer après, c'est horrible, d'accord? Ça existe, ça. Pas besoin du Seigneur. Ça coûte cher, mais ça existe. Et on est tellement dans ce système de ah non, il faut que j'arrête ça, il faut que je me force, il faut que je me fasse violence, etc. Mais le Seigneur veut intervenir dans sa puissance et par son Saint-Esprit de la même façon qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Il va te demander d'obéir simplement à ce qu'il te dit. Et l'obéissance, ça n'est pas faire ce que les autres ont dit que tu devais faire. C'est pas parce que pour quelqu'un le Seigneur a dit ça, c'est comme ça qu'il a fallu faire dans sa vie, que pour toi ce sera pareil. Tu dois entendre la voix du Seigneur qui te dit fais le tour des murailles de Jéricho et fais-le comme je te dis de le faire, sans combattre, mais sois obéissant et marche avec Dieu. Et je crois que c'est ça la solution que Dieu va vous demander, mais il va vous dire comment le faire, comment changer dans votre vie les choses. Il va dire, écoute ma voix, sois obéissant et marche, marche, et tu verras la muraille qui va tomber. La muraille va s'effondrer. On va dire, mais c'est pas possible, elle est solide. Il paraît que c'était impressionnant cette muraille de Jéricho. C'est pas possible qu'elle s'effondre. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Et si vous obéissez à Dieu, et si vous faites ce que Dieu vous dit, et si vous marchez avec Dieu, marchez selon Dieu, marchez en Dieu, eh bien, vous aurez un jour cette muraille qui va s'effondrer sous vos yeux et vous serez vainqueur. Et c'est ça qui s'est passé à la muraille de Jéricho. Et parce que c'était un miracle extraordinaire, Josué a dit quelque chose, je ne sais pas si ça venait de Dieu ou si c'est lui qui l'a prononcé de lui-même, mais il a dit maintenant que celui qui reconstruit cette muraille pose les fondements au prix de son fils aîné et qu'il pose les portes de la ville au prix de son plus jeune fils. Et c'est ce qui s'est passé bien longtemps après. Celui qui a reconstruit la ville de Jéricho a perdu son fils aîné et il a perdu son fils plus jeune, son fils cadet. Mais là, je vois quelque chose de l'évangile qui est tellement clair, n'est-ce pas? C'est que oui, dans ta vie, les murailles doivent s'effondrer. Oui, dans ta vie, les murailles doivent tomber. Et si elles ne sont pas tombées, alors c'est là où Dieu doit intervenir. Peut-être tu as eu une intervention à la périphérie. Peut-être le Seigneur t'a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, que les murailles de ma vie puissent tomber. Les murailles, ce n'est pas votre faute. Arrêtez de dire c'est de ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ça, ce n'est pas de la repentance du tout. C'est répéter une formule. Les murailles que vous avez autour de votre vie, c'est essentiellement à cause de votre passé que vous n'avez pas choisi. Le Seigneur sait de où vous venez. Le Seigneur sait, et il n'est pas comme un avocat qui dit « Ah oui, mais il y a des circonstances atténuantes. » Il ne dit pas qu'il y a des circonstances atténuantes. Il sait de où vous êtes venu, mais il dit « Je veux faire tomber la muraille. » C'est une muraille qui a été construite sur votre vie. Oui, les problèmes, les passions, ce sont des conséquences, dans la plupart des cas, de ce qui a été connu. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a eu deux parents alcooliques, qui a été frappé, qui a été jeté, mis à la porte très jeune, comment voulez-vous qu'il devienne un bon garçon, une bonne fille, bien élevée, bien éduquée, religieuse et tout? C'est pas logique, c'est pas possible. Dieu le sait. Et la raison pour laquelle ces gens-là sont sauvés, et pas les gens qui ont une bonne éducation. Je veux dire en proportion. Évidemment, il y a des gens d'une bonne éducation qui sont sauvés, et il y a des gens qui sont d'une mauvaise éducation qui ne sont pas sauvés. Mais en proportion, il y a plus de gens qui sont des prostituées, des gens de mauvaise vie qui viennent à Jésus. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin que la muraille soit brisée. Tandis que les gens qui sont élevés dans des milieux chrétiens souvent pensent, voilà la muraille, Seigneur, tu es content, elle est bonne, hein? Elle est fondée sur l'évangile, sur l'éducation évangélique, sur la parole de Dieu. Donc, je vais utiliser ma muraille pour toi. J'ai même entendu des gens qui disaient, c'est bon que cette missionnaire, elle avait un sale caractère et le Seigneur a utilisé son sale caractère. Est-ce que vous croyez que le Seigneur utilise le sale caractère? Si vous pensez que votre sale caractère peut être utilisé par Dieu, ça veut dire que Dieu toucherait à quelque chose de sale. Il a besoin que la muraille du sale caractère soit tombée, soit brisée et soit totalement réduite par terre. Mais on dit, Seigneur, je vais utiliser ma forte personnalité pour ceci. Je vais utiliser ma connaissance pour ceci. On a besoin que tout ça, ça tombe et que ce soit un miracle qui se passe. Et quel est ce miracle? Ce miracle, c'est la reconstruction de la muraille. Vous allez dire, mais non, c'est une malédiction. Mais oui, c'est une malédiction. Mais cette malédiction, elle a été portée par Jésus-Christ. Parce que Dieu a décidé de reconstruire la muraille. Et il a reconstruit la muraille au prix de son fils aîné, Jésus-Christ. Et il la construira, il posera la porte au prix du plus jeune fils, c'est-à-dire vous. La plus jeune fille, c'est-à-dire vous. Le Seigneur a pris cette malédiction sur vous, sur lui, et il a donné son fils unique, Jésus-Christ, pour que la muraille puisse être reconstruite maintenant. Et la muraille, c'est quelque chose de solide, mais ce n'est pas le résultat de l'éducation de vos parents, ce n'est pas le résultat des circonstances sociales, du milieu socio-économique duquel vous venez. Ça ne vient pas des influences spirituelles que vous avez reçues dans votre enfance, ça vient de l'Esprit de Dieu lui-même qui reconstruit la muraille au prix de son Fils aîné. Et Dieu va reconstruire. Est-ce que vous pouvez dire oui, le Seigneur a reconstruit ma muraille? Oui, c'est là où il y avait un problème et le Seigneur est en train de construire maintenant cette muraille. Mais il faut chercher ça. Si vous savez, il y a des gens qui sont liés à l'intérieur. Liés à l'intérieur. Ils disent, Seigneur, je ne peux pas exprimer ma joie, je ne peux rien dire, je ne peux pas louer le Seigneur. Ils sont honnêtes au moins de le dire. Ils ne vont pas faire semblant le dimanche. Ils vont dire, il y a quelque chose qui me lie, il y a quelque chose qui est contenu en moi. Oui, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix de son fils aîné. Pour que cette muraille tombe. Et cette muraille tombe non pas parce que tu vas commencer à casser avec des pioches et faire des efforts pour que ça s'effondre, mais elle va tomber par la puissance de Dieu, par un miracle, si tu obéis et si tu marches. Marche avec Dieu, obéis à sa voix, tu verras cette muraille qui tombe de ta vie. Et cette muraille qui s'est effondrée, c'est pas satisfaisant. Parce que dans ce cas-là, tu es exposé à toutes les influences extérieures. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va reconstruire la muraille. Et c'est pour ça que Jésus a payé de son sang, pour reconstruire quelque chose qui va te protéger, qui va protéger ta vie, mais il y mettra des portes. Et les portes seront placées de cette ville. Jésus avait dit, celui qui mettra les portes le fera au prix de son plus jeune fils, son fils cadet. Eh bien, c'est à ce moment-là où tu deviens l'enfant de Dieu réellement, lorsque tu dis, j'accepte que tu mettes, toi, la porte. Et la porte de la ville, la porte sur la muraille ne peut être mise qu'à condition que tu te retires, toi. Parce que, donc c'est au prix de ta vie, c'est au prix de tes intentions, de tes ambitions, c'est au prix de ton contrôle sur ta vie. Parce que la porte, c'est ça qui gère ce qui rentre, ce qui sort. Et pourquoi tant de chrétiens veulent encore contrôler ce qui se passe? Pourquoi tant de chrétiens veulent encore gérer leurs problèmes, gérer leurs paroles, contrôler leurs paroles, etc. Contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Laissez Jésus-Christ, qui est la porte, remplacer la porte que vous avez, qui est vous-même et qui gérez les entrées et les sorties. Laissez Jésus-Christ, qui a dit qu'il était la porte, être placé. Mais ça sera possible que si vous mourrez, pas physiquement du tout, mais si vous mourrez à vous-même, en disant Seigneur, je te laisse la place. C'est toi maintenant qui contrôles les entrées et les sorties, à l'intérieur et à l'extérieur de ma vie, c'est toi qui es la porte. Et c'est à toi que je laisse toute la place. Et ça sera au prix de votre vie, ça demande à pouvoir renoncer. Mais vous savez, c'est ça l'étape qui manque dans beaucoup d'expériences de vie chrétienne. Parce que si vous regardez le livre de Néhémie, qui a reconstruit la muraille non pas de Jéricho là, mais de Jérusalem, eh bien, vous allez voir les attaques de l'ennemi à plusieurs reprises, les stratégies de l'ennemi exactement les mêmes que celles du XXIe siècle. Les mêmes stratégies, donc il y a la même auteur qui est derrière tout ça. Pour décourager, donc la moquerie, les accusations mensongères, le découragement, l'éloignement. C'est très frappant de voir les stratégies que l'ennemi utilise pour empêcher la construction du mur de Jérusalem. Mais à un moment donné, dans le chapitre 6 de Néhémie, Néhémie dit, je n'avais pas encore, ou j'étais, la muraille était construite, mais je n'avais pas encore posé les battants des portes. Il était sur le point de poser les battants des portes. Et l'ennemi a utilisé une stratégie différente à ce moment-là. Il n'a pas utilisé la moquerie, il n'a pas utilisé les accusations, il n'a pas essayé de dénigrer. Il a dit à Néhémie, viens, 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 on va discuter. Mais viens à l'écart de Jérusalem, on va discuter. Néhémie a dit non. Il a dit, j'ai une tâche trop importante pour quitter mon ouvrage. Ils ont renouvelé 4 fois, puis une cinquième fois. Le problème de nous, c'est que quand, à ce moment-là où on est prêt à laisser la porte, Jésus-Christ, l'ennemi vient dire, viens, viens un petit peu à l'écart, laisse un peu ton... Tu reprendras ça tout à l'heure, ou plus tard, ou demain, la semaine prochaine. Mais viens un peu, je dois juste parler avec toi. Et on lui dit, d'accord, je reviendrai. Seigneur, la semaine prochaine. Et c'est fini. C'est à ce moment-là que la victoire s'obtient, lorsque Jésus-Christ, la porte, devient la porte de notre vie. De sorte à ce qui sort de nous, ça n'est plus l'impureté. Ce qui sort de nous, c'est plus la méchanceté, c'est plus les paroles grossières, c'est plus les critiques, c'est l'amour. Parce que c'est passé par le voile du corps de Jésus, parce que c'est Jésus qui est devenu la porte, et il ne peut rien passer d'impur par cette porte. Et ce qui rentre dans nos vies, c'est seulement ce qui est pur. Mais pas parce qu'on est en train de contrôler, de résister, mais parce que le Saint-Esprit a fait ce miracle de détruire la muraille, de la reconstruire et de mettre les battants de la porte et la porte. Et parce qu'on a accepté jusqu'au bout. Est-ce que ce matin on va accepter que ce soit le cas? Et par cette porte, Jésus est passé par la porte de Jéricho. Et il est rentré dans la ville. Et dans cette ville, dans le chapitre 19 de Luc, il est dit qu'il y avait un personnage, vous le connaissez bien, c'est Zachée. Ce personnage, il avait des problèmes parce qu'il n'était pas aimé. Mais il n'était pas aimé parce qu'il n'était pas aimable, parce qu'il était voleur, parce qu'il était sans pitié pour les gens. Les gens disaient, il était collecteur d'impôts, les gens disaient, pitié, j'arrive pas, j'arriverai pas, est-ce que tu peux me faire crédit? Et disaient, non, il n'y a pas question, je vais saisir tes enfants. J'imagine, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils étaient détestés du peuple. Il était petit et il a pensé, moi je vais voir Jésus, ni vu ni connu. Je vais rencontrer Jésus, mais personne ne le verra que j'ai rencontré Jésus, sinon qu'est-ce qu'ils vont dire? Et Jésus ne va pas me voir. Moi je vais le voir, il ne va pas me voir. Je vais me cacher dans un sycomore. Il est grimpé dans cet arbre et Jésus l'a regardé. La première fois, peut-être qu'on le regardait avec amour. Comment vous regardez les gens? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que ceux qui vous ont roulé, vous les regardez avec amour? Est-ce que ceux qui vous volent, vous regardez avec amour ces personnes-là? Ou est-ce que vous les détestez? Et il a regardé Zachée. Et il a dit à Zachée, il faut que je demeure chez toi. J'aimerais vous dire que c'est ça la troisième étape. C'est que à l'intérieur de nos vies, il y a besoin que le Seigneur fasse son œuvre. Et son œuvre, c'est de demeurer. Il faut que je demeure chez toi, Jésus a dit à Zachée. Et Zachée devait être bouleversé. Il attendait que Jésus lui dise... Méchant collecteur d'impôts. Il avait peut-être entendu comment Jésus parlait aux pharisiens. Et il a dit, s'il parlait comme ça aux pharisiens, aux religieux de l'époque, comment va-t-il me parler? Il va me dire des choses bien plus dures. Et il y a des gens qui refusent de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Jésus, parce qu'ils se disent, voilà, Jésus va me condamner. Et quand ils acceptent d'aller vers Jésus, ils sont touchés parce que Jésus leur dit, je t'aime. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà le genre de parole que Jésus donne aux pécheurs. Voilà, Zachée est un pécheur, un homme coupable. Dans le chapitre 18, avant ça, vous avez ce récit, cette parabole du publicain et du pharisien qui sont dans le temple de Dieu, l'un qui dit, voilà, moi je suis juste. Pardonnez-moi, mais si vous croyez que vous êtes juste aujourd'hui, il n'y a aucun espoir pour vous. Il n'y a aucun espoir. Mais si même ayant été justifié, vous régulièrement vous sentez votre misère et votre besoin de Dieu au point de dire, Seigneur, construis la muraille, pose la porte, guéris-moi de cet aveuglement. Eh bien, si c'est le cas que vous criez comme ça, vous êtes justifié par Dieu. Celui qui était justifié dans cette parabole, c'est le publicain qui a dit, je ne suis même pas digne de lever la tête. Mais aie pitié de moi. Il était justifié. Et aujourd'hui, Jésus fait cette même œuvre. Il veut demeurer chez nous. Il a demeuré chez Zachée que très peu de temps avant que Zachée change de comportement. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre. On voit trop de contrôle du comportement dans les églises. Alors, il faut faire ça. Non, non, fais surtout pas ça. C'est pas bien, c'est pas bon. Mais fais ça. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous pousse. Mais cherchez l'Esprit de Dieu. Dites, Seigneur, demeure dans ma vie. Viens demeurer en moi. Cherchez à ce que l'Esprit de Dieu demeure en vous et habite en vous, de sorte à ce que votre comportement soit changé. Quand on me demande, est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est pas bien de faire ça, souvent je dis... Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit, faites ce que le Saint-Esprit vous a dit. Parce que si c'est nous qui contrôlons le comportement, alors on est sous la loi, on est dans la manipulation. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, alors c'est la vie de l'Esprit qui contrôle le comportement. Que l'Esprit de Dieu demeure chez vous. Priez cela, cherchez Dieu, cherchez à ce que Dieu demeure dans cette Église, mais qu'il demeure aussi dans nos propres vies. Et Zachée, son plus grand problème, c'était d'amasser de l'argent. Il aimait l'argent. C'était toujours faire une affaire, même s'il faisait mal aux gens. Et là, il a dit, je vais donner aux pauvres. Si j'ai volé, je vais rendre 4 fois plus. Voilà une conversion. C'est même pas la peine de demander comment ça s'est passé. On peut le baptiser. Quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, j'ai été transformé par l'Esprit de Dieu. Et quand on sait que le témoignage est vrai, quand on sait que les gens peuvent attester que cette personne qui était voleuse maintenant donne aux pauvres et donne 4 fois à ceux qui ont volé. Vous savez, vous n'avez certainement pas le droit de refuser le baptême à cette personne. Pas besoin de faire des séances d'entretien. Est-ce que tu es prêt pour le baptême? Non, on baptise. Parce que la personne a vraiment passé de la mort à la vie. Et c'est le miracle de Dieu de changer le comportement sans qu'il y ait d'effort. Zachée était joyeux. Il n'a pas dit, bon, je vais essayer, Seigneur, mais tu sais que c'est difficile. Tu sais que pour moi, ça a toujours été un problème, l'argent. Je vais essayer. S'il avait dit ça, il n'aurait rien fait. Il aurait fait une fois ou deux, et ensuite il aurait volé un peu plus pour rattraper ce qu'il avait donné. Mais l'Esprit de Dieu fait le travail. Si l'Évangile est vrai, alors c'est ça qui doit se passer dans les vies. Si ça ne se passe pas dans les vies, c'est qu'on refuse que ça se passe. Ou, deuxième option, c'est que l'Évangile n'est pas vrai. Mais je sais que l'Évangile est vrai, et vous le savez. Vous le savez parce que vous avez vu autour de vous des gens transformés. Parce que vous avez été transformés vous-même, vous avez été touchés à un niveau ou un autre, au niveau de l'œil, au niveau du nerf optique, au niveau du cerveau, à l'extérieur, entre deux, ou à l'intérieur. Mais Dieu veut agir complètement, il veut nous transformer, il veut nous faire de nous des gens totalement nouveaux, par l'œuvre du Saint-Esprit, qui n'ont plus à lutter contre la loi, contre leurs passions, contre leurs habitudes, contre leurs tendances, mais qui agissent par amour pour Dieu, parce que Jésus demeure dans leur vie, qui agissent comme Dieu le veut. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui dit recouvre la vue. Et tu interviens à tout niveau. Mais Seigneur, qu'il n'y ait pas de barrière à un niveau ou à un autre. Seigneur, si l'œil ne fonctionne pas, la vision n'existe pas. Si le nerf optique ne fonctionne pas, la vision n'existe pas. Si le cerveau ne fonctionne pas, la vision ne fonctionne pas. Et nous voulons, Seigneur, que tu fasses cette œuvre. Je veux que tu fasses aujourd'hui cette œuvre dans ma vie. Totale. De guérir ce qui est aveugle. De donner la lumière. De détruire l'ancienne muraille pour reconstruire ta muraille. Pour mettre la porte qui est Jésus-Christ. Et pour demeurer en moi. Seigneur, que ce soit la réalité pour chacun d'entre nous, par ta grâce. Amen.